À la rencontre aujourd'hui avec Ludovic Fabregas à ma droite, qui est handballeur de MHB, international tricolore, et de l'autre côté, donc Ito de Pavo, donc navigateur Bastidotio, si je ne me trompe pas. Rencontre croisée aujourd'hui, on va commencer par toi. Là, Ludovic, évidemment, tu as été champion junior la semaine dernière avec l'équipe de France junior, ça a été un super souvenir.
Oui, forcément, voilà un super souvenir, surtout qu'on était vraiment une très bonne bande d'amis. Et puis l'aventure a été très belle avec un titre en fin de compétition. Ça a été de très bons moments, une très belle aventure humaine. Et c'est vrai qu'on espère qu'il y aura d'autres tous ensemble ou alors chacun de notre côté dans notre perspective.
Est-ce qu'il y a un souvenir vraiment marquant dans cette compétition, quelque chose qui t'a vraiment marqué?
Je pense que c'est forcément le moment où on reçoit notre médaille, on reçoit notre trophée. C'est un moment voilà, un petit peu unique dans toute carrière d'un sportif. Parfois il y a beaucoup de titres, parfois il y en a moins, parfois il n'y en a pas. Il faut savoir saisir les opportunités. C'est vrai que ces moments-là, ils sont magiques, ils nous appartiennent et on en garde forcément de très bons moments.
Alors Quito, vous êtes en pleine préparation pour une compétition assez énorme, le Vendée Globe. Racontez-nous comment ça se passe un peu cette préparation.
Bon, c'est une préparation, c'est comme le handball, hein, c'est pareil, c'est du long terme. Ça fait longtemps que c'est entré dans la tête, ça fait 10 ans hein, que je travaille sur le projet Vendée Globe. J'ai mis le doigt dans cette course étonnante il y a un peu plus de 10 ans, c'est mon troisième départ. Et puis là on a racheté un bateau roue, donc on a construit un nouveau projet avec deux partenaires principaux qui sont Bastille Médical et le groupe HBF, plus d'autres partenaires de la région qui sont sous la contrôle de Made in Midi. Et puis on prépare ça, donc c'est un gros travail parce qu'il faut tout partager. D'abord trouver effectivement les financements, préparer techniquement le bateau, alors ça se passe plus loin à Port Camargue, et puis préparer le golem aussi physiquement et mentalement à affronter des contraintes qui ne sont pas forcément très sympathiques.
Alors il y a eu deux premières épreuves qui ont été plus ou moins bien marché, on va dire.
Plus ou moins bien.
Comment on appréhende cette troisième épreuve quand
on cherche de la sérénité, je sais que sur les deux premières éditions on avait tout pour réussir. Malgré ce, ça n'a pas fait. J'ai manqué vraiment de chance. Et cette année on repart avec des moyens autres, avec une autre histoire, d'autres partenaires et avec la certitude de travailler dans mon sens pour réussir ce coup-là. Alors moi je n'ai pas 19 ans, j'en ai 55. Et donc pour moi ce sera sans doute le dernier Vendée Globe, donc il ne faut pas rater ce coup-là. Donc moi je me prépare le plus sereinement possible, le plus professionnellement possible, avec un timing qui est assez favorable. Voilà. On va mettre le bateau à l'eau dans peu de temps, ce sera fin mai, on va avoir tout l'été pour se préparer, on va rester en éternité pour se préparer pour un départ qui aura lieu le 6 novembre au Stade Bologne.
Alors pour toi Ludovic, par contre c'est complètement différent, pas du tout dans le même genre d'événement. Comment on prépare un match dans les jours qui viennent, qui précèdent?
Après, chaque joueur a sa préparation. Maintenant, moi je sais que là, avec Montpellier, avec l'équipe nationale, on a des matchs qui sont très importants, des matchs de très haut niveau, parfois élimination directe. Et c'est vrai que voilà, on se doit de bien se préparer physiquement mais aussi mentalement. Donc voilà, avant les compétitions, avant les matchs, il y a tout un travail aussi de préparation physique. Et c'est vrai que les heures qui précèdent la rencontre, on travaille beaucoup, beaucoup mentalement parce qu'il faut être concentré dès le début du match au bon moment pour mettre toutes les chances de notre côté. Après voilà, moi individuellement je me prépare plutôt de manière assez tranquille, un petit peu de musique, un petit peu de vidéo, d'analyse de l'adversaire et derrière après je suis prêt pour le match.
Est-ce que chaque joueur a ses petits rituels qui vous donnent?
Oui voilà, chacun a ses petits rituels. Il y en a qui font une petite promenade, il y en a qui s'isolent, il y en a qui sont plus en groupe. Maintenant ça appartient aux joueurs de se préparer pour être le plus performant possible. Et puis voilà, après il y a les petits moments aussi de vestiaire qui s'ajoutent à ça et de manière à être prêt et performant immédiatement.
Alors pour préparer des grandes courses comme le Vendée Globe, c'est pareil, j'imagine, dans les dernières heures qui passaient de l'événement, comment ça se passe? Est-ce qu'on a un track particulier?
Oh oui, les derniers moments c'est terrible parce qu'on a une journée, la journée du départ est quelque chose de formidable d'abord, très excitant parce qu'on y pense quasiment tous les jours, mais par contre c'est difficile. Mentalement surtout, parce qu'on prend plusieurs claques, il y a des émotions très très fortes. Au moment où on largue les amarres, on lâche le bateau du quai où il y a énormément de monde, il y a évidemment les amis, la famille, les sponsors, journaliste, il y a beaucoup d'émotions, tout le monde pleure, c'est terrible. Il y a le traversée du chenal des Sables d'Olonne qui est quelque chose d'assez incroyable parce que nous marins on n'a pas l'habitude d'avoir du public, hein, contrairement aux grandes baleines. Et c'est vrai que les Sables d'Olonne nous amènent ça, un public, un espèce de stade qui est très long, ça fait presque un kilomètre de long, ça dure pendant presque une demi-heure où on traverse cette foule qui vient nous voir partir et pour longtemps, on part pour 3 mois. Donc ça c'est vraiment très émotionnellement assez difficile. Et puis après on se retrouve en mer, alors on ne sait plus rien faire parce que nous ça fait un mois que le bateau est taqué, qu'on n'est plus sans arrière. Et puis on sort d'un endroit où on est cocooné, on est dans les hôtels, on se prépare dans de bonnes conditions, on est très confortable. Et puis on se retrouve en général au mois de novembre, on ne fait pas très beau au Sable d'Olonne. Donc il fait froid, il fait gris, la mer est formée, en général il y a du mauvais temps qui est pas loin. Et puis on se retrouve tout seul sur le bateau à préparer le départ. Et puis là on se retrouve effectivement tout seul face à une trajectoire ou un tour du monde qui est évidemment pas facile à
faire. Forcément on essaye de faire le plein d'énergie, ça vous porte justement ce public qui est là pour vous ?
Oui, parce que parmi ce public-là, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui me soutiennent, qui sont sensibles au projet, au montage du projet. Ils savent tous que c'est difficile de préparer un Vendée Globe. On n'a pas une grosse équipe derrière nous, mais vraiment peu pour préparer cette aventure-là. Et on sait aussi que l'aventure pendant 3 mois va être quelquefois difficile. Il y a un peu qui arrive. Il y a 50% des partants qui n'arrivent pas du casse matériel, hein, c'est un sport mécanique, donc il y a pas mal d'aléas, et c'est la mer qui a toujours raison. Donc on sait qu'on part un peu à l'aventure. Et ouais, c'est intéressant.
Ouais. Alors ce côté solitaire, vous ne l'avez pas du tout. Avec le MH2, vous êtes souvent porté par le public, c'est important ça.
Mais c'est vrai que ça a une vraie importance, surtout à Montpellier, qui est un club prestigieux, qui a gagné beaucoup de titres ces dernières années, qui est le club le plus titré de l'Hexagone. Donc forcément, les résultats ont été basés aussi sur, certes, une grande équipe, mais aussi un grand public. Et c'est vrai que c'est quelque chose de plus dans des moments difficiles qui nous permettent peut-être de rebondir et d'avancer peut-être plus vite, chose qui est peut-être plus difficile en bateau quand on est seul. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus pour nous, joueurs, d'être portés par un simple public.
Alors plutôt René Bougnol ou plutôt Arena?
Alors moi je suis plus René Bougnol parce que voilà, c'est pour ça que c'est plus famille et c'est vraiment l'antre de Montpellier. Après c'est vrai que l'aréna de Montpellier c'est une salle qui est magnifique avec beaucoup de monde qui se présente lors des manifestations, lors des matchs. On l'a vu en Coupe de la Ligue, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain aussi en championnat. Et c'est vrai que dans des grosses affiches comme celle-ci, le public a répondu présent. Nous a permis aussi d'aller chercher des victoires peut-être qui étaient inattendues.
Cette Coupe de la Ligue bat le PSG, c'était un pur bonheur.
Ah oui, totalement. C'est vrai que c'est jamais facile de gagner Paris, surtout quand ils avaient déjà gagné un championnat. Donc certes on avait un petit avantage, mais c'est vrai que battre Paris 2 fois dans la même saison, pour le moment personne ne l'avait fait. En France, personne n'avait aussi battu cette équipe à part nous. Donc c'est vrai que c'était un match très important avec un titre au bout et c'est vrai qu'on a mis tous les ingrédients pour le décrocher, ça a été chose faite et on était très contents après le coup de sifflet.
Alors l'idéal, ce serait de battre une troisième fois à haut à Paris.
Oui, c'est sûr, quand on peut gagner notre titre, que ce soit Paris ou une autre équipe, on ne va pas s'en priver, surtout un club comme Montpellier. Donc maintenant on va travailler dur. Pour le moment, il y a des échéances importantes qui arrivent avant. Et c'est vrai que si on peut gagner un autre titre, surtout face à Paris, on ne va pas s'en priver et on va aller chercher.
Est-ce que vous pouvez me parler d'un moment fort de votre carrière, quelque chose qui vous a vraiment marqué, quand vous y pensez, ça vous prend au trip?
Ouais, il y en a beaucoup. Alors, chez les marins, on a tendance à oublier les moments difficiles. Donc, tout ça, on les oublie très vite, ce qui nous permet d'ailleurs de repartir à l'avant et à l'aventure. S'il y a un moment particulier dont je me souvienne, c'est effectivement ma victoire sur la solitaire du Figaro. Ça remonte à déjà quelques temps, c'était en 2002, donc c'était presque pas né. Mais c'est vrai que c'était un moment super fort parce que la solitaire du Figaro, c'est vraiment la référence de la course au large en France et dans le monde, puisque finalement la course au large en solitaire n'est très peu développée en en dehors de nos frontières. C'est d'ailleurs très curieux qu'il n'y ait pas la Solita du Figaro en Nouvelle-Zélande, en Angleterre ou en Espagne. C'est ainsi. Et c'est vrai que j'avais été étonné moi-même de pouvoir remporter cette course-là, ça a été épuisant. Et c'est vrai que j'ai fait gros souvenir de cette période Figaro, finalement, en étant méditerranéen, on allait affronter finalement les meilleurs de la classe et des Gallois.
Cette particularité justement d'être le sudiste parmi les Bretons, c'est quelque chose de spécial, on vous charrie
là-bas ? Oui, je pense qu'on nous apprécie bien aussi. Je pense que les Bretons adorent venir naviguer en Méditerranée. D'ailleurs, ils sont sur le salon, ils sont assez nombreux à être descendus avec des bateaux. Ils aiment bien prendre le soleil un peu de temps en temps, ça leur fait du bien. Et on est pris très au sérieux. Alors moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais plagiste, donc plagiste méditerranéen, et qu'on va faire de la course large en montagne, ça fait un peu sourire. Et puis ils n'ont pas soumis longtemps.
Toi de ton côté, meilleur souvenir de ta jeune carrière, si tu dois en retenir qu'un pour l'instant en tout cas.
C'est quand même assez compliqué, voilà, parce que j'ai pas encore vécu beaucoup d'événements, mais je pense que j'ai deux souvenirs marquants. Le premier c'est avec Montpellier, donc je pense que c'est quand même mon premier titre en professionnel, donc ça va être forcément la victoire de Coupe de la Ligue face au PSG. Et après je retiendrai aussi plus à niveau international, en plus des titres que j'ai eu avec les Francs Jeunes, ma première sélection. Avec l'équipe de France A qui a été quelque chose quand même d'assez inattendu pour moi et parce que j'ai été sélectionné quand même qu'à l'âge de 18 ans donc c'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans ma carrière et puis maintenant j'espère essayer de m'intégrer de plus en plus et sur le long terme dans cette équipe de France.
Ouais, qu'est-ce qu'on ressent quand on entend la Marseillaise comme ça, quand on est tous ensemble juste avant un match?
C'est toujours un sentiment un petit peu spécial, c'est un sentiment qu'on n'a pas la chance de vivre en club. Et c'est vrai que c'est toujours un bonheur de pouvoir représenter son pays. J'avais déjà connu ça un petit peu par le passé puisque je faisais pas mal de vélo trial et les compétitions internationales je connaissais, représenter le maillot de l'équipe de France je connaissais aussi. Et c'est vrai que porter maintenant le maillot de l'équipe de France dans le handball c'est quelque chose de magnifique et j'espère pouvoir le porter encore très longtemps.
Avec un héritage qui est lourd, il y a un énorme palmarès dans cette équipe de France, forcément ça y pense.
Oui, forcément on y pense. Maintenant le plus dur reste à venir. Les années futures sont plutôt belles a priori. On a de très belles générations, que ce soit de ma génération ou la génération du dessus, on a quand même été champion d'Europe, champion du monde. Donc il y a pas mal de titres chez les jeunes depuis quelques temps. Et c'est vrai que du coup ça on se dit que c'est possible voilà, qu'il y ait de nouveaux titres encore dans le futur et on espère qu'il y en aura énormément.
Est-ce qu'il y a déjà un pire souvenir dans cette jeune carrière ?
Un pire souvenir, non, pour le moment c'est que du bonheur, j'essaie de profiter au maximum de l'instant présent et des choses qui m'arrivent parce que c'est vraiment fabuleux en étant si jeune de déjà avoir vécu beaucoup de compétitions, d'avoir vécu des moments forts. Donc pour le moment je profite énormément de ça et je verrai par la suite s'il y a des situations qui sont un peu plus difficiles qu'à l'heure actuelle.
Quito ? Pire souvenir, est-ce qu'il y en a forcément qu'on retient comme ça aussi ?
Ouais, le pire souvenir, là, c'est les deux abandons sur le Vendée Globe, parce que ça fait partie de l'actualité, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pose des questions sur le Vendée Globe, on pense à ces deux échecs. Donc c'est vrai qu'il y a 8 ans, moi, j'ai dématé 24 heures après le départ, c'est cruel, hein, c'est très difficile. Il y a 3 ans, rebelote, j'ai percuté un chalutier 3 jours après le départ. Donc ça c'est des moments très difficiles, alors heureusement on oublie vite, mais c'est des moments qui ont été difficiles à oublier. Cruel, très, très cruel parce que c'est beaucoup d'énergie de préparer un Vendée Globe. Hein. Je pense que c'est assez comparable à n'importe quel sportif qui prépare les Jeux Olympiques et qui se casse la jambe 15 jours avant. Hein. C'est un peu la même chose, en tout cas j'imagine. Et ouais, ça a été difficile à porter pour tout le monde, pour moi, pour ma famille, pour mon équipe, pour les sponsors, pour les fans. Je crois que ça a été vraiment compliqué. Mais
la famille dans ce moment-là est importante, j'imagine.
Oui, c'est important d'être bien entouré parce que c'est vrai que c'est, comme je disais, c'est difficile à porter. Hein, parce qu'on a beaucoup de responsabilités. Je pense que Ludovic, c'est pareil. Présenter une équipe comme Montpellier ou l'équipe de France, c'est lourd de responsabilité. Et c'est vrai qu'on a un échec qui est personnel, il faut l'assumer totalement devant plein de personnes.
Est-ce qu'il vous réunit tous les deux finalement. Comme beaucoup de sportifs, c'est la passion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts dans le handball, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est la famille qui t'a poussé vers ce sport?
Alors moi déjà je suis originaire de Bagnols-sur-Mer, donc du coup je jouais au handball là-bas, dans un petit club. Donc à la base je pensais pas du tout faire du haut niveau, je pensais jamais intégrer une équipe comme Montpellier, puis forcément aussi l'équipe de France. Donc voilà, à la base je faisais du handball juste pour m'amuser, derrière mon frère en faisait aussi, donc je suivais un petit peu ses traces. Et puis voilà, un beau jour il est étudiant sur Montpellier, il est ami avec des joueurs du centre de formation, et derrière je vois des entraînements de l'équipe première, des entraînements des jeunes. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu un attachement pour ce sport. Et c'est vrai que derrière, j'ai enchaîné les étapes, j'ai présenté le Pôle Espoir, le centre de formation derrière, puis maintenant l'équipe professionnelle. Et c'est vrai que je pense que sans mon frère à l'heure actuelle, je n'en serais pas là, même si après le travail me revient et revient aussi aux entraîneurs qui m'ont formé.
Est-ce que finalement, on ressent vite ce qu'on a fait pour ça?
En tout cas, pour moi, oui. Je pense que je suis totalement fait pour ça. J'aime le travail, j'aime la compétition. J'aime le dépassement de soi, donc c'est vrai que tout ça me pousse à continuer encore dans ce sport. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à l'heure actuelle, que ce soit en club ou en équipe nationale. J'espère continuer maintenant et garder toujours ce plaisir.
Kito, les débuts, comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu, comment est-ce que vous avez vu, vous dire un bonjour, allez, je vais aller là-dedans.
Moi ça a été un peu différent, hein, parce que moi quand j'avais l'âge, je voulais être un peu plus jeune quand même, quand j'avais 17 ans, c'était la première édition de la Route du Rhum, en 78. Et ça j'avoue, bon, j'ai navigué, mes parents sont installés ici au Côte d'Or, quand j'avais une dizaine d'années, donc j'ai navigué un moment, ça paraît naturel de naviguer, de naviguer sur un port. Ça paraît pas si évident que ça dans ma vraie vie, mais moi j'avais envie de naviguer, j'ai pris beaucoup de plaisir quand j'étais gamin à naviguer. Et c'est vrai que cette première Route du Rhum a déclenché une vraie envie de faire ça. Après faire de la voile, c'était et ça reste compliqué. Parce que c'est un sport mécanique, et comme tout sport mécanique, pour montrer qu'on sait faire, il faut une infrastructure, il faut des bateaux qui coûtent cher, et donc il faut trouver d'abord les moyens pour montrer ce que tu sais faire. C'est vrai que c'est peut-être plus facile dans d'autres sports. Je pense à l'athlétisme par exemple, quand un gamin court plus vite que tous les autres, il est vite repéré par les entraîneurs, les gens, tout ça, etc. En voile, c'est beaucoup plus compliqué. Il a fallu que je sois patient, alors j'ai beaucoup navigué, j'ai pourlingué partout sur la planète, j'ai convoyé des bateaux, d'ailleurs des bateaux de ce genre-là, partout sur la planète, que ce soit vers les Antilles, la Polynésie, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. J'ai beaucoup appris et finalement je suis revenu à ce que j'avais envie de faire quand j'avais 17 ans, quand j'avais près de 40. J'ai fait ma première solitaire du Figaro à 39 ans. Ma carrière finalement au large professionnel a commencé assez tardivement. Hein, voilà. Donc moi j'admire et surtout je comprends la chance qu'a un jeune comme Jovic à rentrer dans une histoire aussi belle que celle de l'handball français. Parce qu'il a vécu des belles années avec ce sport, mais je pense que c'est génial de pouvoir finalement assouvir ses passions très très jeunes.
Alors est-ce qu'on peut parler du bateau sans forcément entrer trop dans les spécificités techniques, mais est-ce qu'on peut parler de ce bateau?
Oui, sur ses particularités. Oui, bien sûr. Alors c'est, en fait, tous les bateaux du Vendée Globe ont à peu près les mêmes caractéristiques. Normalement, ça fait 18 mètres de long, 6 mètres de large, un peu moins, 4 mètres de tir en eau, et un mât qui culmine à 29 mètres. Juste quelques règles qui sont passées du live. Donc tous les bateaux sont des monocoques. Cette année, il y aura 27 bateaux sur la ligne de départ. Évidemment, malheureusement, il y en aura beaucoup moins sur la ligne d'arrivée. Et en fait, ce bateau-là était celui que j'ai racheté l'année dernière. C'est un bateau qui a déjà fait le Vendée Globe la dernière fois. On est quatrième entre les mains de Jean-Pierre Dick. C'est un bateau qui a été construit en Nouvelle-Zélande par des architectes français qui ont construit, par exemple, le bateau qui est derrière vous. Qui s'appelle VPLP et Guillaume Verdier, donc c'est un très très bon bateau qu'on est en train par la baie des Morts, qui est un peu plus loin, et puis j'aurai l'occasion de naviguer à bord, puis j'invite Ludo à venir faire un petit tour sur le bateau. On va faire attention à ne pas se cogner parce qu'il n'est pas de plafond.
C'est important en tout cas d'avoir confiance en son bateau, évidemment, hein. C'est comme un pilote de Formule 1 avec sa F1, c'est très très important de
faire. Oui, je pense que c'est bien plus que ça, parce que les pilotes de Formule 1 en général, ils ont 4 ou 5 voitures dans le garage, ou peut-être une dizaine. Quand ils en cassent une, c'est pas très grave. Enfin, ça peut être grave, mais ils ont une derrière pour pouvoir conduire quelques heures après. Et nous, c'est notre vie qui dépend finalement de ce bateau-là, donc on a besoin d'être très très en confiance avec ce bateau. C'est une compétition difficile, on va dans les mers les plus hostiles de la planète. On navigue sans filet, donc on a vraiment besoin d'avoir confiance dans la coque, dans le matériel, dans les systèmes qui sont installés sur le bateau. Et c'est ça qui est passionnant dans notre sport, c'est-à-dire qu'on touche finalement à de la haute technologie. Moi je ne suis pas un technicien, je ne suis pas polytechnicien, mais pourtant il faut que je progresse dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'on apprend tous les jours et c'est vraiment passionnant.
Ludovic, alors les prochaines étapes importantes pour toi, quels sont tes objectifs pour les mois et les années à venir?
Pour le moment, c'est de bien me concentrer sur la fin de saison avec Montpellier, déjà, il faudra bien terminer pour aller chercher une place aussi qualificative en Ligue des Champions. Pour le moment, le titre est, on va dire, quasiment acquis pour le PSG. On va aller chercher cette deuxième place qui pourrait être qualificative justement pour cette compétition. Là, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, la préparation, donc. C'est vrai que ça va être très dur pour moi de rentrer dans les 14 joueurs, plus un remplaçant qui iront au Brésil. Maintenant, je compte me donner à fond pour faire déjà une bonne préparation. Et puis derrière, j'attendrai le choix des sélectionneurs qui prendront leurs décisions. Mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir vécu une compétition comme l'Euro. Et de pouvoir faire la préparation des Jeux Olympiques, ça sera déjà une grande chose.
Quand on attend la liste comme ça, dans les minutes qui précèdent, on est comment? On est devant son téléphone, on appréhende?
C'est vrai qu'on appréhende un petit peu. Enfin, moi, j'ai pu le vivre déjà pour le championnat d'Europe. C'est vrai que juste avant l'annonce, j'étais déjà un petit peu stressé, un petit peu crispé. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, est-ce que j'allais partir, pas partir. Et c'est vrai que là, je pense que pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose encore de plus fort. Je dirais dans quelques mois comment ça va passer ce moment si je fais partie de la préparation.
Si on va encore plus loin, le championnat du monde, évidemment particulier en France, c'est quelque chose d'assez énorme, on a envie d'y goûter évidemment.
Oui, c'est vrai, voilà, une compétition en France, ça arrive très rarement. C'est vrai que en 2017, on aura la chance de recevoir cette compétition-là. L'équipe de France se battra forcément pour un titre à la maison. Maintenant, forcément, quand on s'installe, quand on commence à s'installer dans cette équipe-là, quand on commence à goûter à des préparations et à des compétitions, ça donne envie de faire une compétition, mais cette fois-ci dans son pays. Donc, j'espère faire pouvoir partie de cette aventure, mais pour le moment, il y a encore beaucoup de chances avant celle-ci.
Est-ce qu'il y a les anciens ex-Montpellier, quelques petits conseils pour réussir dans l'équipe de France particulièrement?
J'ai des petits entretiens, oui, avec eux, voilà, pour parler un petit peu de ce qui pourrait m'attendre, ce qui pourrait m'arriver dans quelques années. Maintenant, le système en équipe de France est très bien. Les jeunes sont vite pris en main par les cadres, alors montpelliérains ou pas montpelliérains. Même s'il y en a beaucoup aussi en équipe de France qui sont passés par Montpellier, tout le monde nous aide à bien s'intégrer. Donc, voilà, j'ai pas forcément de personnes qui me parlent un peu plus. Certes, forcément, j'ai des joueurs comme Ika Guillou qui m'ont bien aiguillé au tout début de...
pour que dans 4 ans, dans 8 ans, dans 2 ans, dans 1 ans, il y ait aussi travail.
Alors justement, pour un jeune qui voudrait se lancer, qu'est-ce que un navigateur expérimenté comme vous a envie d'en dire?
Ouais, il faut naviguer, il ne faut pas avoir peur, il faut naviguer, pratiquer, naviguer sur tout ce qui bouge, quoi, tous les bateaux qui naviguent, qui régatent, il faut aller dessus, il faut être passionné. Et en fait, ce qui compte le plus, c'est la passion. Et voilà, je crois que c'est le seul truc qui fonctionne, après il faut avoir un peu de chance, il faut être confiant.
De ton côté pour les jeunes, ouais, j'imagine, ils viennent te voir, viennent te demander des photographes régulièrement, des demandes d'alors. Est-ce qu'ils te demandent des petits conseils? Qu'est-ce que tu as envie de dire?
C'est vrai que j'ai déjà eu des occasions où j'avais des jeunes qui venaient me voir. J'ai un petit peu un sentiment spécial parce que certains avaient mon âge, d'autres qui étaient un peu plus anciens. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont un peu particuliers par moment. Mais c'est vrai, voilà, parfois j'ai des demandes sur des conseils, mais c'est quand même assez dur de répondre. Moi je leur réponds souvent de prendre ça beaucoup de plaisir. Comme le disait Kito, d'être passionné pour la discipline et voilà, de vraiment se régaler pour prendre le maximum de plaisir. Après, c'est vrai qu'il y a un facteur chance dans le monde professionnel. Parfois c'est une blessure, parfois c'est l'opportunité qui se présente parce qu'il y a la confiance de l'entraîneur ou d'une autre personne encore. Mais c'est vrai que voilà, j'essaie de leur dire de se régaler, de prendre le maximum de plaisir et de profiter des moments qui leur sont arrivés.
Dans 2-3 ans, tu te vois toujours à Montpellier ou si tu marches pas loin,
c'est... Pour le moment, c'est encore loin, il y a encore voilà, beaucoup d'échéances avant. Ce que je peux dire après, c'est que je me sens très bien dans ce club. C'est vraiment un club familial qui me correspond. Je me sens très bien ici, voilà, il y a un cadre de vie aussi qui est magnifique. Il y a le beau temps, il y a la mer, un petit peu comme chez moi aussi à Banyuls. Pour le moment, je suis très heureux d'être là et après si l'aventure se poursuit, tant mieux. Si je dois partir ailleurs parce que le club ne veut pas me garder ou que j'ai d'autres ambitions, dans ce cas-là peut-être je penserai à un départ, mais pour le moment je suis très satisfait d'être ici.
Qu'est-ce qu'il a de plus selon toi sur ce club? Évidemment, bien sûr, le club le plus titré en France. Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au PSG par exemple?
Moi, je pense qu'ici à Montpellier il y a une vraie culture. Déjà, le club est compétitif depuis plusieurs saisons. L'entraîneur est aussi là depuis très longtemps, donc ça veut dire qu'il voilà, y a une vraie confiance aussi envers cet entraîneur, envers le travail qu'il réalise au quotidien et chaque année. Donc déjà c'est quelque chose de marquant, chose qui n'est pas toujours le cas dans les grands clubs, où souvent quand les résultats ne sont pas forcément favorables, il y a forcément des licenciements. Maintenant, voilà, c'est un club qui est un petit peu à part, qui a eu une très belle histoire, qui a connu des moments compliqués et qui, malgré ça, a su relever la tête pour gagner des titres à cet événement.
On va conclure sur voilà, la perception de l'autre, un petit peu.
Ah oui, clairement, c'est pas très très facile, pour le moment je pense pas très agréable de se retrouver seul, même si voilà, il a la volonté de faire voilà, des tours du monde chaque année. Maintenant, voilà, c'est sa passion comme il disait, et c'est vrai que quand on est passionné, quand on aime quelque chose, on ne prend pas forcément le temps, il n'y a pas forcément, voilà, ça n'a pas forcément de prix aussi. Donc, tant que la passion est là, comme il disait, ben, c'est l'essentiel et ça nous permet de continuer maintenant.
Mmh. Et Kito, votre perception des sports co comme ça, comme le rond, et puis un petit jeune qui monte comme ça.
Oh, bon, je suis assez proche du MHB, parce que je connais bien Patrice Canaillon, je connais bien Alain Carman, qui est mon vétérinaire depuis 15 ans. Il se trouve que j'ai partagé aussi le vestiaire à Bougnol pour s'entraîner sur le dernier Vendée Globe, pour entraîner là-bas avec Olivier Morelli. Donc je connais bien la bande, je connais bien certains joueurs qui travaillent là-bas. Je trouve que le hand reste un sport très populaire. Je trouve que c'est assez formidable que ce sport ait pu émerger, notamment grâce à Montpellier qui a fait beaucoup de choses pour le hand depuis 30 ans. J'aime bien aller au match, j'aime bien regarder ça à la télé, il y a toujours beaucoup de suspense. Hein. Un peu crispé, on est fatigué après un match de hand à la télé. Hein. Et puis moi je suis ravi, ouais, de l'état d'esprit en général sur le hand. C'est vraiment sympa. Et puis on a la chance d'avoir dans la région justement un joli club avec des jeunes qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'envie. Et qui se partage avec une population qui est à fond derrière son club. C'est vraiment bien.
Eh ben, merci Guito, merci Ludovic pour cette interview croisée ici à la Grande Motte. Et puis à bientôt.
Très bientôt. Bon, on croit que vous pouvez venir alors, ouais, MHB faire enfin, du bateau. Hein. On avait fait venir Nicolas et Mickaël il y a quelques années sur le bateau.
Mickaël
était malade, creux, il a fait une fiesta.
Sur la fin de saison, c'est plus facile après, puisqu'on a déjà la Ligue des Champions qui est en
moins. Même cet été, quoi.
Ouais, l'été, c'est plus agréable.
Juin, juillet.